Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc de retour dans nos lectures en liberté, à la recherche de ce bar parfait avec Jean-Bernard Puy. J'ai traversé à nouveau la ville, un vrai yo-yo. Ce zigzag urbain correspondait tout à fait à mon état, légèrement envapé, mais je marchais encore dans les chaussures. Et j'avais déjà faim. Le mélange vin blanc-martini, ça tape un peu. Quand on est presque cuit, toutes les rues de Paris se ressemblent. Ce ne sont que des artères encombrées dans lesquelles, invariablement, tous les 100 mètres, se tapit un bistrot. En Bretagne, avant, il y avait un café tous les kilomètres, la distance que l'on pouvait faire à pied sans avoir vraiment soif. Rue de Courcelles, je n'y suis pas resté longtemps. Je n'aimais pas beaucoup ce quartier. En général, je préférais la rive droite, mais dans les parages, fallait le dire, c'était vraiment à droite. J'ai tenté d'élire un troc, mais aucune empathie dans l'air, rien ne m'attirait. À travers les glaces, que des gueules d'empeigne. La tronche de ceux qui ont le temps de manger parce qu'il est bien d'avoir le temps pour faire des affaires. L'intuition du bistrot, c'est essentiel. Avant de pousser la porte, il faut en avoir envie. Des fois, ça ne tient qu'à peu de choses. Une affiche, la couleur des lampes, la gueule du patron, le nom de l'endroit, une odeur, souvent. En plus, juste à côté, il y avait eu un accident de la circulation. Plein de badauds se sont regroupés autour de la victime, une jeune femme en vélib, dont s'occupait un secouriste du SAMU, pratiquant sur la jeune évanouie un bouche-à-bouche qui ne devait rien à la sécurité routière, mais qui s'inspirait largement de la protection civile. Si j'entrais dans un rade maintenant, à tous les coups, j'allais me taper des commentaires sur les socialistes de la mairie, tous des rois de la pédale. J'ai vérifié. Sur mon plateau de Monopoly, la prochaine étape était Avenue de la République. Enfin, un quartier qui m'était familier, où les surprises peuvent être nombreuses. Avant de m'enfoncer dans le métro, je suis passé devant un bel étal constellé de fromages très odorants. Et comme à chaque fois, quand je vois des coulants bien ronds, bien puants, je pense aux corbeaux de la fontaine. J'avais déjà une petite collecte de variations sur le thème. Maître Corbeau, sur un arbre perché, avait au bec un livaro. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce propos. Mon préféré. Mais j'ai pas pu résister, j'ai acheté un morceau de comté pour le grignoter sous terre. C'était tellement bon que j'ai regretté amèrement de ne pas avoir un verre de Savagnin du Jura, un vin jaune ou un château Chalon. J'ai failli ressortir illico du Tromé pour m'en trouver un. Mais je savais que c'était mission impossible. Jamais je n'avais dégoté ce genre de bibine au verre et au comptoir. Ça arriverait bien un jour. Là, ce serait peut-être la fin de ma quête. Un kebab avenue de la République. Je me suis bourré de viande verticale, saccale. Et plus c'est épicé, plus ça donne soif. En sortant du resto, là encore, je n'ai pas choisi. Je suis entré dans le premier bistrot venu. Genre à l'ancienne, popu, limite Napa Caro rouge et blanc. J'en ai marre des simili lounge, tech formica et des radam mojito, happy ours à partir de 18h. Un café et un rhum, s'il vous plaît. Le rhum. Blanc ou brun? Déjà la faute. Le rhum, le vrai, est blanc. cœur de chauffe ou pas. Il faut que ça déchausse les dents et détruise les neurones ou rien. Vous avez du Perlabatte ou du Nesson ? Le mec a inspecté ses bouteilles poisseuses derrière lui. « J'ai que du Bip !» Et il m'a cité la marque à ne justement pas citer. « Bon, un café seulement. » Le type a fait la gueule, mais je l'ai attrapé avant qu'il me tourne mentalement le dos. « Tiens, donnez-moi un Sancerre à la place du rhum. »« Bah, je ne vous le donne pas, je vous le vends. » « Oui, bien sûr, c'était une manière de parler. » « Moi aussi, c'était une manière de parler. » Je lui ai laissé le dernier mot, ça le calmerait. Il se prendrait pour le roi du zinc, car je venais de voir un petit poème punaisé sur le pilier à droite du perco. Travailler, c'est sûr, il faut le faire. Et il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Pour supporter, il y a le Sancerre, pour éviter d'être un rond de cuir. Ben, ça m'a plu. C'est rare qu'on parle du travail, surtout dans les cafés. C'est le vrai problème, le travail. Tout dépend de lui et personne n'en parle jamais. Personne ne veut travailler et tout le monde se plaint de ne pas en avoir du travail. Ça a un peu rétabli la moyenne, le vin à la place du boulot, vaste programme, mais loin de toute utopie. Il y avait dans ce caboulot autre chose, un fond d'agressivité, de la méchanceté dans l'air, de la mauvaise humeur. J'ai bu mes deux godets cul sec, j'ai payé et je me suis enfui sans rajouter un mot. Au milieu du trottoir, à moitié perché sur le dossier d'un bac, à moitié debout et dansant, des jeunes à capuche, en pleine embrouille, hurlaient des imprécations, se voulaient menaçants à force de gestes déplacés, n'étaient pas très loin de la bagarre sèche, précise et ravageuse. Ils avaient tous une canette à la main. Qu'ils se battent vraiment, ça les empêchera pas de faire une connerie le reste de la journée. J'étais un peu pompette. Je savais par habitude que ma vraie journée pouvait commencer. La tête ne me tournait pas encore, mais mes mains ne tremblaient plus. On allait pouvoir passer aux choses sérieuses. Ce périple obligatoire me plaisait de plus en plus, quoique 26 stations dans ma montée du Golgotha, ça faisait beaucoup, même pour un soifard comme moi. J'ai consulté mon plateau de jeu. La prochaine étape, boulevard de la Villette. Pas question, trop excentré. J'allais tricher, tant pis. C'est compliqué de tricher au Monopoly, mais j'avais tous les droits. D'ailleurs, je ne l'aimais plus, ce quartier. J'avais connu les abattoirs, moi, à 6h du mat. Après une nuit de picole, on allait s'y taper des pavés de bœuf tellement tendres qu'on les coupait à la fourchette. Ce coin, pour moi, sentirait toujours le sang, pas la science ou la musique. Certes, j'aurais pu m'y pointer pour me taper un Bloody Mary. Mais c'était un peu trop tôt pour ce genre de divine mixture. C'est une boisson du soir. Juste avant d'aller mettre la viande dans le torchon ou prendre son lit en marche, et l'on était en débit d'après-midi. En début d'après-midi. Après, il y avait l'avenue de Neuilly. Jamais. Pas question. Un principe de base. On ne boit pas Rupin, on boit et baste. On a toujours du mal à se torcher chez les riches. Surtout chez ceux qui ne se montrent pas, ne se mélangent pas, ne restent pas debout en lodène au comptoir et qui laissent népincer les bistrots aux quelques épaves du coin. Cette engeance se calfeutre chez elle, le petit doigt en l'air, faisant semblant de s'y connaître en pinuche, discutant château et millésime, trempant le nez dans le verre et le tournant lentement pour soi-disant réchauffer et faire respirer la bibine. Rue de la Paix. Ça ira. C'est au centre de la ville où il y a toujours un peu tout le monde. Mais fallait attendre, parvenir à la fin du jeu. C'était la dernière case la plus convoitée. Si mon état à ce moment-là me le permettait encore, si mon polygone de sustentation avait le nombre de côtés adéquats. Surtout qu'après on peut passer par la case départ et on touche 20 000 balles. Ça fait combien, 20 000 balles en euros? Donc, rue de Paradis. Pas Adache et joli nom. C'est peut-être là que je le trouverai, mon Éden, ce bar dans lequel j'envisagerai l'éternité. où je reviendrai souvent, aimanté par un bien-être, une sympathie, un barman qui n'est pas qu'un pingouin, des clients qui ne sont pas que des Pékins avec qui, pour un peu, un tout petit peu, on pourrait se battre. À cette heure-là, pour moi, l'extérieur rétrécit, n'existe pratiquement plus. Des fois, ça s'embrume, des fois, ça tangue. Petit à petit, je me fous de tout. Les autres peuvent crever. Seul reste le ver de blanc. Je me fous du monde entier, je me fous de monde entier, comme disait l'autre. Dans le bistrot, calme, presque glauque, univers feutré, pas très propre. Il y avait du Saint-Véran, un bon point. En plus, à la température adéquate, un must. Un gros type est entré, s'est installé au piano en me poussant honteusement pour mettre sa serviette en cuir sur le zinc. Ça, c'est chiant et nul. Ça prend la place d'un assoiffé et généralement, le patron vous engueule. Il a commandé direct un jaune, sans ajouter une quelconque politesse. « Lequel de jaune ?» lui a demandé le serveur, un peu énervé, ayant repéré le mauvais coucheur. Bah, « Je m'en tape, un jaune. Un 51, tiens, ouais. » Et quand j'en reprendrai un, ça fera un 102. Un rigolo. Un violent, peut-être. Mais fallait tenter le coup, l'alcool dans mon sang me donnait ce courage que je n'avais jamais à jeun. Monsieur, je lui ai dit, c'est normal. La réaction de monsieur, il y a le lait de panthère et celui de tigre. Il y a le pastaga, le pernaga, le perniflard et le pernifle. Et puis pour l'absinthe, notre mère à tous est encore plus dément. C'est la verte, la bleue, la purée, la cressonnée et le mastic. C'est aussi l'express pour Charenton. Étonnant, non? De quoi tu te mêles, vous? Planté. Innocemment, je pensais l'amuser. Un mec qui a dû se lever en s'écrasant le petit doigt de pied sur le montant du lit. Celui qui allait troubler mon Saint-Véran et faire en sorte que ce rade, je n'y remettrai plus les pieds avant longtemps. J'aurais pu continuer en lui demandant la différence entre mauresque, perroquet, tomate ou vélo. Mais ce type venait sans doute aussi de se faire incendier par son patron ou jeter par sa femme, pas à toucher avec des pincettes. « Je peux avoir des chips ?» il a grogné. « Pareil. Même pas un « s'il vous plaît ». Un veau, une brute. Ce mec bourré, un danger public, des chips en plus. Cette poussière craquante qui huile les doigts et laisse des traces suspectes sur les verres. Des olives passent encore, avec des cure-dents si possible. Mais avec les noyaux, les olives éviscérées sont molles et coupables d'avoir déjà été tripotées. Ce n'est pas parce qu'on est presque sous que l'on n'est plus paranoïaque. J'ai payé. J'avais la monnaie. Mon voisin ne m'a même pas vu sortir. Sale ambiance.
Il s'agit d'un boui-boui bien crado où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au crouchef maison. Un Bordeaux va piquer les hannetons. De temps en temps, il y a un vieux pull à sueur qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre. Et puis une nana, une jolie drôlesse qui lui vante son magasin à fesses. Au Torboyo, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sert, t'as les premières douleurs au dessert. L'estomac, nous, qui demande pardon, les boyaux qui tricotent des napperons, les rotules de grand-mère, c'est du beurre, à côté du beefsteak pomme vapeur. Si avant d'entrer, il te reste une molette, un conseil, tu la laisses au vestiaire. Au Torboyo, le patron s'appelle Bruno, sa femme est morte il y a 3 mois. D'un ulcère à l'estomac. Dans le quartier, même le mois le plus doux, tu ne risques pas d'entendre miaou. Des greffiers mignons, y'en a plus baiser. Ils sont tous devenus terrines du chef. Je me souviendrai longtemps d'un casier qui voulait à tout prix du gibier. Il chuta avant de sucer les os, les moustaches en croix sur le carreau. Oh, torboyau, le patron s'appelle Bruno, il envoie des postillons, ça fait les yeux dans le bouillon. Sois prudent, prends bien garde au fromage, son camembert a eu le retour d'âge. Avant de l'approcher, je te jure que t'hésites, ou alors c'est que t'as de la sinusite. Comme Bruno a un gros panari, le médecin prescrit le bain-marie, mais subrepticement, en t'amenant l'assiette, il le glisse au chaud dans la blanquette. Oh, torboyau, le patron s'appelle Bruno, rien qu'à humer le mironton, t'as la gueule pleine de boutons. Il s'agit d'un oui-oui bien crado, tous les mecs par-dessus le calando, se rince la cloison au croup de chef maison, un merci, pas piqué les hannetons. Cet endroit est tellement sympathique qu'il y a déjà le tout Paris qui rapplique. Un petit peu déçu, va être invité, ni filmé par les actualités. Oh, torboyau, le patron s'appelle Bruno, allez vite le voir avant qu'il s'achète la tour d'argent.
Nous revenons donc à cette recherche du bar parfait avec Jean-Bernard Puy.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
La case suivante, c'était la gare de Lyon, j'ai évité. À part le train bleu, il n'y a plus rien. Que des bistrots sans comptoir. Je déteste être obligé de m'asseoir et attendre plus que de coutume. Que des trucs à sandwich frimeur et croissant mou, la viennoiserie conquérante. Avec bien évidemment plein de démons essoufflés prolongés par leur saloperie de valises à roulettes. J'avais déjà donné à Montparnasse. Et puis les gares du Monopoly, je n'aimais pas. Moi, ma préférée, c'est Austerlitz. Et elle n'y était pas sur le plateau. J'avais toujours trouvé ça honteux, surtout pour le sud-ouest, où il y a tant de bons vins. La gare de l'Est n'y était pas non plus. Mais ça, je m'en tapais de la gare de l'Est. Personne n'y va jamais dans l'Est. Je commençais à être un peu atteint. Fallait faire attention. Pouvoir tenir jusqu'au soir et jusqu'à la rue de la Paix. Avenue Mozart. Bah, tu parles d'un quartier. Que des bistrots m'as-tu vu, et pas beaucoup en plus, comme s'il fallait protéger une réputation. Pour le café et le thé pisseux uniquement, dans lesquels on plonge avec componction son croissant beurré ou son macaron farci. J'en ai néanmoins choisi un au coin d'une petite rue en retrait de l'avenue, cosy, juste ce qu'il faut, avec des petites lampes rouges incrustées dans les murs et un comptoir en bois lustré. Pour une fois, perché sur un tabouret, une femme. Ça changeait. Quand elle a redemandé un porto, à son accent, j'ai compris que c'était une Anglaise ou une Américaine. Boire du porto à 3 heures de l'après-midi, toute seule au zinc, faut un tempérament de type anglo-saxon. Surprise, ils avaient du savenière, un délice, bon point. La femme m'a fixé plusieurs fois, franchement, apparemment heureuse de me surprendre en train de savourer mon blanc à petite gorgée. J'ai senti par intuition que, déjà allumée, elle était dans l'état idéal pour parler et pour parler longtemps. Plus qu'un interlocuteur, elle cherchait un auditeur. Ça aussi, c'est une habitude de bon client. À force, on repère ça très vite. Elle m'a montré d'un geste du menton une petite affichette vantant les mérites du département d'origine du patron. L'Aveyron. Ça vous dit quoi, l'Aveyron? Chef-lieu Rodez, je crois. Mais what encore? Bah, les sous-préfectures, je sais pas trop, Millau peut-être. Elle s'est mise à rire et à chantonner. C'est l'Aveyron qui nous mène, qui nous mène. Ah oui, oui, oui. C'est l'Aveyron qui nous mène en rond. Sauf, miss, que c'est pas l'Aveyron, c'est l'Aviron. Pas du tout, c'est l'Aveyron. Ce que vous, les Français, ne savez pas, et ce que nous, les Anglais, savons, puisque c'est un Anglais qui a inventé cette formule. Elle prononçait « formule », c'était charmant. Une Anglaise, donc, normale. Les Anglais croient toujours avoir tout inventé. « Et qui ?» j'ai relancé. « Shakespeare ? Churchill ? Pas du tout. Robert Louis Balfour. » « Ah, d'accord. Vous savez qui c'est, Robert Louis Balfour ?» Ça me dit quelque chose, mais là, je ne vois pas. Elle a ri de nouveau. « Stevenson, le grand Robert Stevenson, l'île au trésor, vous avez lu ?» Bien sûr, il y a longtemps, Stevenson, celui qui a traversé les Cévennes avec son âne. Ben c'est ça, les Cévennes et l'Aveyron. Mais sa vraie sentence, c'était « c'est l'Aveyron qui nous mène, c'est l'Aveyron qui nous mène à Rion ». Formidable. Rion, en Gironde. C'est pas tout près de l'Aveyron, c'est un aphorisme qu'il a inventé pour dire simplement que le chemin est long et tortueux jusqu'au bonheur. Ah ben ça, c'est bien vrai. Ce qui est, avec le recul, d'un euphémisme brutal quand on sait le destin tragique de Stevenson, mort à 44 ans d'hémorragie cérébrale après une vie agitée et précaire, des voyages et exils incessants et des amours difficiles. Vous parlez un français impeccable. Merci. Vous voulez que je vous en raconte un peu plus, ou bien, comme vous dites déjà, ça vous gonfle? Non, non, allez-y. Comment refuser? Et puis, son accent rosbif était tellement marrant. L'histoire est d'une simplicité lumineuse. Venant de rencontrer sa bien-aimée et ayant déjà le projet de traverser la France profonde avec son âne, il ne pouvait l'emporter avec lui, la femme, et lui demanda donc de l'attendre dans la petite ville de Rion.
« Ah,
oui ?» Des amis bienveillants qui ne lui reprochaient pas de vivre sans être marié avec une femme divorcée et qui, plus est américaine, étaient prêts à l'accueillir. Et donc il traverse les Cévennes, écrit ce qu'on connaît, mais ne rêve que d'une chose, rejoindre vite Sévrac, descendre l'Aveyron en coche d'eau pour arriver en Gironde. Là, il s'est mis à minauder, à se trémousser carrément sur son tabouret. Parler avec un âne fatigue à la longue, comparé à la douceur des bras et de la discussion de sa bien-aimée. La vision des pentes sombres, sauvages et herbeuses des montagnes cévenoles ne lui fait pas oublier la douce chevelure de son ami. Et la rudesse patoise, la sagesse paysanne de tous les anciens camisards rencontrés çà et là, lui font quand même regretter le babil léger et sentimental de son amoureuse. Babil, c'est ça, on dit babil. On peut. Alors, en plus de ses carnets de voyage, il écrit des petits poèmes à sa promise, petits poèmes d'amour et de passion presque enfantine, qui se terminent tous par ces deux vers. C'est l'Aveyron qui nous mène, c'est l'Aveyron qui nous mène à Rion. Magnifique. Vous vous moquez? Pas du tout. Ce bar était pourtant bien parti pour gagner des galons, mais là c'était trop. Tombé sur une paraphrénique confabulante, une forcenée incantatoire, c'était un peu beaucoup, une anglaise en plus. Ça m'a fait penser subitement à ce qu'avait crié Bonaparte quand il avait vu à Aboukir que les Anglais étaient là, eux aussi. Mais qu'est-ce que ces Anglais foutent là, à Aboukir? C'est quand même insensé. Est-ce que je vais en vacances à Brighton, moi? Merci, miss. C'était fabuleusement instructif. Fuck you, c'est ça. Ça commençait à bien faire et c'était décidé, si je me faisais fucker, ce serait pas par elle. Dans un bar parfait, personne ne doit réellement te prendre le chou, surtout celui du haut. Je m'apprêtais à lâchement me sauver quand un grand type, hirsute, en manteau de fourrure et chapeau de cuir, a fait irruption dans le bistrot et s'est littéralement jeté sur la femme. « Allez, salope, tu rentres, bah, tu peux crever !» Il a tenté de la descendre du tabouret en la prenant violemment par la manche. Elle s'est mise aussi sec à hurler des trucs en anglais. Le patron est intervenu. « Monsieur, s'il vous plaît, vous vous calmez ou alors... »« Ben, de quoi tu te mêles, toi, le morbac ?» J'ai cru que ça allait dégénérer. Mais la femme est descendue de son perchoir, le menton un peu de traviole, et a pris le bras de son homme. « On y va ? Holy shit !» Après, c'était la place Pigalle. Là résidait l'espoir. Un quartier toujours un peu pourri, mais en pleine mutation. Il y a encore le choix entre des grands bars anciens, lumineux et clinquants, et d'autres boui-boui, certains oubliés des dieux, et d'autres lorgnant vers le post-moderne. Sans parler de la population disparate, du travelot au japonais, du caucasien au cocasse. En prenant le métro, je titubais de plus en plus. L'ivresse gagnait des galons. Mais j'avais encore toute ma tête. Et c'était l'heure de passer au rouge et de commencer par un Beaujolais. Oui, je sais, le Beaujolais. Mais il y en a du bon. Le Morgon, par exemple. Il y a même du naturel. Sans, à l'intérieur, cette saloperie qui vous file une casquette en peau de locomotive. Pendant le trajet, j'ai eu l'impression pour la première fois que des gens me regardaient, mettaient un peu plus de distance entre eux et moi. Soit j'avais des signes extérieurs d'ivresse, soit je sentais carrément le pinard. Sale ambiance. J'ai choisi un bar anodin, assez années 50, mobilier comme en rêvent les jeunes couples qui se veulent adeptes de la petite déco, petite clientèle bigarrée, trois vieilles attablées, quelques immigrés groupés et frileux au fond de la salle, sous les lamperons des oranges, comptoir en cuivre rutilant, barman à moustache, patron à moustache et serveuse à moustache aussi. Un Morgon, s'il vous plaît, ballon. Brouilly ? Va pour le brouilly. Froid ou à température ? À température, oui, c'est mieux, à température. À côté de moi, accoudé au cuivre, un drôle de type. Celui que dans toutes les petites sociétés, on appelle illico l'intello. Cheveux longs et crasseux, petites lunettes cerclées, gros manteau poussiéreux, qui fonctionnait à la bière, et qui écrivait de temps en temps sur un petit carnet noir. Un intello a toujours envie de parler, pour vous en mettre plein la vue, pour étaler sa science, pour prendre des notes en vue du poème total qui un jour le fera passer de ce rat de pourri au flore ou au select. Il est bon ? Pas mal. Encore un peu trop froid. Ouais, du pinard ? Moi j'en bois plus, les temps ont changé. Vous ne supportez plus ? Non, 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 c'est pas ça. Mais la bière est immémoriale. Les Égyptiens en fabriquaient déjà il y a plus de 3000 ans. Bon, vous savez, on a bu du pinard à toutes les époques. Il m'a regardé songeur. Il réfléchissait. Ça sentait tout à coup la réflexion, une odeur un peu suave. Ça s'échappait de lui, de sa tête, de son expression. Et puis, il s'est lancé. Voix grave, théâtrale. Ah, la Lorraine, Nancy et ses bergamotes, Metz et sa gare, assurément l'une des plus belles du monde, et Toul, tout le monde oublie Toul et jamais Toul, never Toul. Et pourtant il s'en passe des choses à Toul. On ne peut qu'admirer la constance et la clairvoyance de la municipalité en ce domaine, qui, depuis peu, organise le Festival mondial de la gastronomie. Tous les chefs, les cadors, les tocs passent à Toul. Jusqu'au jour où il y a eu un problème. Libations, discours, fêtes et cérémonies ont atteint le foie et le moral de nos cuisiniers les plus performants, trop contents d'être enfin réunis. Le lendemain de l'inauguration, ils étaient tous en retard, occupés plutôt à roupiller plutôt qu'à préparer la sauce. On frôlait la catastrophe. Oh, l'abus du plumard à Toul, les ailes toquent. J'ai dû le contempler d'un drôle d'œil. Je devais avoir la gueule du type en pleine ascension du Cervin, car il m'a scandé en souriant. On a bu du pinard à toutes les époques. Oh, l'abus du pinard à Toul, les ailes étoquent. On a bu du pinard à toutes les époques. Oh, l'abus du plumard à Toul, les ailes étoquent. Ah ouais, d'accord, j'ai admis. Je me sentais bien. J'allais rigoler avec ce type qui tentait presque avec désespoir de me surprendre à tout moment. Sa voix était douce. Peut-être qu'enfin je le tenais. mon bar parfait. Vous connaissez Raymond Roussel, je présume ? Il a repris après avoir bu une précautionneuse gorgée de bière. Pas bien, un peu. Parce qu'il pratiquait parfaitement ce que je viens de faire, les homophonies approximatives. À côté de lui, je suis un impuant. J'allais lui répondre quand la porte d'entrée a claqué. Je me suis retourné pour voir le coupable qui brisait ainsi un possible début de bonheur. Trois types masqués étaient entrés en coup de vent. J'ai immédiatement remarqué les armes dans leurs mains gantées et j'ai vaguement aperçu l'un d'eux se précipitant sur moi, la crosse de son fusil à pompe en avant. Et après, plus rien. Voilà, nous avons terminé ce soir donc la lecture en quelques extraits de cette errance de Jean-Bernard Puy, ou plutôt de son personnage dans les rues de Paris, à la recherche de ce bar parfait. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.